Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis juriste responsable des projets de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, ou la GFO tout court, et je vais m'occuper de la modération de cette entrevue. La GFO est une organisation à but non lucratif qui a comme objectif d'assurer l'accès à la justice en français en Ontario. Ce balado est réalisé dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence basée sur le genre. La GFO aimerait remercier l'Office de la condition féminine pour leur appui financier dans ce projet. Nous avons avec nous Maître Liliane Chiama-Kalonji, avocate et notaire au Centre des services communautaires de Vanier. Aujourd'hui, nous allons discuter des implications des modifications de la loi sur le divorce dans les cas de violence conjugale. Notre objectif est d'informer le public des nouvelles considérations en ce qui a trait à la violence conjugale pour les couples mariés en instance de séparation ou de divorce. Alors, Liliane, je vais commencer par vous demander comment la nouvelle loi prend en compte des nouveaux aspects de violence conjugale et en quoi ceci diffère de la loi d'auparavant.
OK, merci beaucoup. Oui, en effet, la loi sur le divorce prend en compte des nouveaux aspects de violence familiale, car les récentes réformes apportées à la loi en 2021 démontrent que la violence familiale donc, est pertinente pour la question du rôle parental. Alors, auparavant, on n'avait pas une définition large de la violence familiale qui peut être également appelée conjugale et on n'avait pas des facteurs relatifs à la violence familiale qu'on pouvait prendre en compte lorsqu'on regardait, on analysait l'intérêt supérieur ou l'intérêt de l'enfant. Et donc, avec les réformes de la loi sur les divorces, nous avons cette définition large, non exhaustive, qui constitue et qui présente des manifestations de violence familiale, tout en incluant le comportement contrôlant. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais elle nous donne un peu vraiment des exemples que les victimes ou les survivantes pourraient se retrouver pour intenter une action de délit devant de délit familial. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que il y a des facteurs qu'on a rajoutés et ces facteurs ont en fait un but de pouvoir fournir au tribunal une liste non exhaustive des critères additionnels à la violence familiale. Et donc, parmi ces facteurs qui sont repris à l'article 16, paragraphe 4 de la loi de divorce, nous avons entre autres, pour commencer, la nature, la gravité, la fréquence de la violence familiale. On a également le comportement coercitif et dominant. On a aussi l'exposition de l'enfant à la violence familiale. On a le tort physique, affectif ou psychologique. On a la sécurité de l'enfant ou d'un autre membre de la famille. On a la crainte de sa sécurité. On a la prise de mesures par l'auteur de la violence familiale pour prévenir des futurs épisodes de la violence familiale. Et enfin, on a tout autre facteur qui peut être pertinent lorsque la cour ou le tribunal est en train de pouvoir décider sur l'intérêt de l'enfant. Et donc, il y a aussi un autre aspect important qu'on a ajouté qui est pris en compte dans le deuxième facteur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le comportement coercitif et dominant. Dans ce comportement coercitif et dominant, nous avons aussi, dans cette disposition, on parle un peu plus clairement de la violence psychologique. Et on dit que toute la violence psychologique, contrairement à la violence physique, ne laisse pas des cicatrices, elle ne laisse pas des traces visibles, ce qui fait qu'elle est rendue à cerner. Mais on sait que la violence psychologique systémique vise à intimider, à contraindre ou à contrôler. Souvent, elle est accompagnée de violences physiques. Et donc, la tendance de l'agresseur est à essayer de façon répétée de dominer, de contrôler l'autre personne par des divers moyens. Et donc, le partenaire dominant peut utiliser la violence effective, psychologique, sexuelle ou économique. Par exemple, je vais donner l'exemple d'une forme de violence, celle de pouvoir dire à la personne, je t'interdis de mettre tel type de vêtements ou je t'empêche de dépenser l'argent qui est dans notre compte conjoint. Tu dois absolument avoir mon autorisation et puis tu ne peux pas travailler là où il y a par exemple des hommes. Donc, c'est des exemples comme ça, de types de violences psychologiques qui peuvent arriver. Il y en a tout plein d'autres. Alors, pour atterrir par rapport à cette question, donc je voudrais mentionner que quand bien même nous avons dit tout à l'heure que la loi sur le divorce prend en compte des nouveaux aspects de la violence, il y a quand même des limites par rapport à la loi de divorce. Donc, elle s'est révélée n'est pas être, n'avoir pas créé un régime législatif complet pour traiter toutes les questions juridiques qui pourraient se poser dans une situation de violence familiale. Alors, par exemple, la loi sur le divorce n'offre pas à une victime ou à une survivante ou un survivant de violence familiale un moyen direct d'obtenir une réparation par rapport au préjudice qui découle directement de la violence familiale et au-delà de retombées économiques du mariage. Alors, pour répondre à ce gap, la common law a créé, avec la décision Alualia contre Alualia en 2022, un délit de violence familiale qui met en fait en place une sentence en responsabilité délictuelle en vue de compenser adéquatement les véritables préjudices ainsi que les obstacles financiers. Donc, les tribunaux ont ainsi envoyé un message fort et clair qu'il n'est pas acceptable de recourir à la violence dans le contexte familial, même si cela n'a pas été mentionné dans la loi, mais la loi nous a ouvert cette porte.
Merci beaucoup. On voit alors que la nouvelle loi sur le divorce essaie vraiment de prendre en considération tous les facteurs possibles dans les cas de violence conjugale en définissant cette violence de façon très large. Puis ces changements vont certainement avoir un grand effet sur les ex-conjoints qui désirent se séparer, puis qui doivent passer par les tribunaux de droit de la famille en faisant une requête de divorce. Alors, pour passer à la prochaine question, quand un couple marié est en instance de divorce, est-ce qu'il y a des nouvelles options en ce qui a trait à la violence conjugale?
D'accord, merci pour la question. Lorsque un couple marié veut entamer une procédure de divorce ou de séparation, le droit de la famille prévoit des formules ou des formulaires que les parties doivent remplir. Et généralement, pour une requête qui va prendre en compte le divorce ainsi que des aspects de la séparation ou les aspects qui concernent les enfants, une des parties veut plutôt faire mention de la violence familiale dans cette procédure. Donc, on va aller regarder la formule 8, qui est la formule générale. Et c'est dans cette formule qu'on met toutes les informations nécessaires par rapport à notre requête. Alors, on ira prendre cette formule et on va arriver à la section qu'on appelle « Demande du requérant ». Et c'est comme, c'est un tableau qui reprend différentes lois ainsi que des cases que les clients peuvent cocher par rapport à leur demande. Et donc, la case 50 va donc ainsi permettre à une personne d'insérer une demande pour dommage-intérêt en matière de violence familiale parce que le formulaire en tant que tel ne reprend pas vraiment une case spécifique mentionnée violence familiale. Alors, on va enchaîner tout de suite avec cette ordonnance, avec cette formule plutôt. Et c'est dans la formule qu'on va, juste en bas du tableau, qu'on mentionne c'est quoi l'ordonnance que la partie qui est en train, la requérante, veut présenter. C'est quoi l'ordonnance qu'elle demande au juge de rendre. Et là, on a également l'opportunité donc de mentionner parmi les ordonnances que je voudrais que la Cour ordonne à M. X de me payer des dommages-intérêts pour la violence familiale que j'ai subie tout au long du mariage. On continue encore avec la formule lorsqu'on arrive à la section « Fait important à l'appui de ma demande de divorce ». Vous avez plusieurs cases, également trois cases, parmi lesquels il y a une case qu'on appelle la personne demande un divorce pour raison de cruauté. Donc, c'est possible de cocher également cette case parce qu'il a été démontré dans les plusieurs recherches et publications que la violence psychologique, la violence familiale représente une forme de cruauté qui peut mettre fin à un mariage. Donc, il peut permettre à un mariage être la cause d'un divorce. Alors, donc, c'est possible de cocher cette case et puis d'apporter un peu plus d'informations, mais les informations seront un peu plus détaillées lorsqu'on arrive à la section Les faits importants appuyant les autres demandes. Et dans ces faits, donc, le demandeur ou le requérant ou la requérante aura la possibilité de mettre l'accent sur la conduite spécifique du membre de la famille qui doit être précise à l'aide des exemples spécifiques. Alors, lorsque je parle d'exemples spécifiques, je veux dire que la requérante devra affirmer dans ses faits que le père a été physiquement, mentalement violent tout au long du mariage, raconter les incidents physiques qui ont eu lieu, par exemple en 2008, en 2004. Donc, l'année doit être spécifique. Si on se souvient du mois, des jours, s'assurer que vraiment ces détails sont rapportés, ainsi que décrire un peu le schéma général de la violence psychologique et du contrôle financier. Donc, ça donne un peu déjà une orientation aux parties de pouvoir quand même rédiger des faits qui sont chronologiques et qui se rapportent aux incidents qu'on a subis par rapport à la violence, conjugale.
Alors, Liliane, est-ce que vous pouvez discuter un peu de la possibilité d'inclure les délits de violence conjugale que vous avez mentionnés plus tôt, dans votre réponse, dans la requête des divorces?
Donc, il existe plusieurs délits qui ont été un peu utilisés dans le contexte conjugal. On peut citer le délit de batterie, qui est en fait une infraction pénale impliquant un contact physique illégal. Le délit de voie de fait qui consiste à employer la force sur une autre personne sans son consentement. Et l'infliction intentionnelle ou de détresse mentale qui, lui, cible les types de détresse psychologique. Mais maintenant, avec le nouveau délit en droit de la famille, on a permis aux survivants d'accéder un peu mieux à la justice en permettant à un seul juge, donc le juge de droit de la famille, de pouvoir intégrer les aspects, d'aller au-delà des délits intentionnels et des délits qui sont spécifiques, comme les délits que j'ai mentionnés tout à l'heure, délits de batterie, voies de fait, infliction de détresse. Et puis, ce sont des délits qu'on utilise très peu. Le nouveau délit en matière de violence familiale, lui, va aller au-delà des coups et blessures, des incidents spécifiques. Il va englober plusieurs incidents afin de permettre au juge d'avoir un peu une vue globale de la violence familiale qu'a subie le survivant, qui peut être de type psychologique, financier, mais qui soit de manière un peu plus prolongée et complexe. Donc voilà un peu pour ma réponse concernant le nouveau délit et un peu comment est-ce que ce délit répond aux limites qu'avaient les autres délits sévères.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez discuter un peu des types de preuves qui peuvent aider les avocates puis les avocats à construire un dossier en droit de la famille, plus particulièrement quand il y a une composante de violence conjugale qui existe dans le dossier?
Tout justement, quand on traite de la violence familiale, on aura besoin des preuves. Donc, les preuves sont importantes. Alors, en droit de la famille, la bonne nouvelle ou la bonne chose, c'est que les règles qui régissent la preuve sont moins strictes. Elles sont moins strictes parce que le juge peut tenir compte de tous les faits, les allégations et conclure à un cas de violence familiale, même si les accusations criminelles portées contre un individu sont retirées ou que celui-ci est acquitté. Alors, le fardeau de la preuve en matière de droit de la famille, c'est le principe civil de la prépondérance des probabilités. Cette prépondérance de la probabilité, c'est pour dire que on peut tenir compte des faits et de toute allégation en autant que on est capable de prouver ce qu'on est en train de dire. Parmi les types, on a par exemple la preuve matérielle, par exemple les preuves par photo. Si madame dit, monsieur m'avait frappé, j'ai des rougeurs, si madame peut faire des photos des rougeurs, ce sera une preuve qui pourrait être prise en compte. On a les divers rapports de police. Les policiers, toutes les fois que les parties ont appelé les policiers à leur domicile, les policiers font toujours des rapports. Et ces rapports, on peut les demander. Et on peut demander des rapports de police qui vont relater tout justement les épisodes de violence. On a également les rapports des agents de services de protection de l'enfance. Si jamais les enfants sont exposés à la violence, toutes ces personnes documentent également les épisodes de violence familiale qu'ils ont rencontrés pendant leur visite. Donc, ce sont des preuves qui sont nécessaires, surtout si les enfants sont impliqués ainsi que le temps parental. On a les rapports d'experts médicaux. Ce sera pour détailler un peu les blessures physique, parler un peu des problèmes de santé chronique, les lésions des tissus, les fractures, les douleurs chroniques, les automutilations. Donc, les rapports médicaux vont relater un peu ces épisodes, dire comment est-ce qu'on a trouvé la cliente et relater un petit peu les faits, relater que le préjudice est lié à la situation qui s'est passée et voici les conséquences. Nous avons également des rapports financiers qui peuvent démontrer que, par exemple, l'utilisation de l'argent, comment peut-être monsieur retirait de l'argent régulièrement dans le compte conjoint sans que madame ne l'utilise. Donc, ça peut aider. On a aussi des affidavits ou des déclarations, c'est-à-dire, ce sont des déclarations qu'une personne fait pour dire. J'ai été témoin de telle situation, j'ai vu telle situation, et la personne relate la situation dans un affidavit. Alors, vous avez également des preuves, toujours matérielles, mais sur le plan psychologique, émotionnel, du demandeur, du requérant, pour parler des problèmes mentaux. Vous avez les rapports d'experts médicaux également, les lettres d'opinion des psychologues ou des conseillers. Des travailleurs sociaux, ces lettres sont produites pour parler du préjudice tel que le faible estime de soi, la dépression, l'anxiété, les idées suicidaires. Donc, tous ces éléments vont permettre au juge de voir qu'effectivement, comme surtout que la violence psychologique n'est pas palpable, c'est pas quelque chose qu'on touche, mais si c'est bien documenté, on pourrait arriver à vraiment voir et quantifier les possibles dommages-intérêts qui seront reliés à ce préjudice. Et sur le plan social, toujours dans la preuve matérielle, on a des rapports d'experts, des sociologues, les lettres d'employeurs, les lettres des conseillers pédagogiques dans les écoles, les lettres des enseignants pour établir, par exemple, le préjudice qui concerne le sous-emploi, l'absentéisme, le faible pansement professionnel, la toxicomanie, la mort par suicide ou féminicide, la diminution du mode de vie, les coûts des soins futurs, la perte de revenus ou la capacité de gain. Vous avez également la preuve testimoniale des choses qu'on a observées directement. Alors, les premières personnes qui ont observé les choses directement, les ont vécues, sont les parties elles-mêmes. Monsieur ou madame, ou monsieur, monsieur, madame, madame. Vous avez les amis, vous avez les experts qui peuvent être invités par un tribunal ou pour bien expliquer leur rapport, ou des experts, des sociologues qui peuvent venir pour expliquer les conséquences de la violence familiale sur un point particulier social, ou toute personne qui est vraiment en mesure de témoigner et qui est approuvé par la Cour.
Merci beaucoup. On voit qu'il y a extrêmement beaucoup de formats de preuves qui peuvent être présentées durant un procès en droit de la famille. Puis le choix de preuve va vraiment dépendre de qu'est-ce que l'avocate ou l'avocat veut prouver au juge. Spécialement en droit de la famille, c'est super important de présenter des preuves détaillées afin de prouver que la victime a subi la violence conjugale durant la relation. Merci beaucoup pour ces explications
C'est
détaillées.
bien.
J'aimerais remercier Maître Kalonji d'avoir pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui et de clarifier comment les nouvelles modifications de la loi sur le divorce ont eu un impact sur la violence familiale, puis les cas de divorce ou de séparation qui sont devant la Cour de la famille. On vous encourage à écouter les autres balados disponibles sur la page web de l'AGFO qui est dédiée à ce programme et à très bientôt.